today we have a small ceremony. This is the final report of the field work since 2010 to 2015, actually. On our investigation of cave inscription in the region of ancient Kucha. And now I am on the behalf of my editors-in-chief, Zhao Li, the Kucha Academy, and Rongxinjiang, Peking University, and myself, and my colleague Ogihara Hirotoshi, and other colleagues in China, that we want to present this book to the College of France, and especially to Professor France Grenet, because we thanks for the your permission of the usage of the image of French expedition in Kucha around 1908, I think, or 07. That was first published by Monsieur Roshan Pinault in 1987, and now we republished several images in that report, and we improve and we integrate with more new plates and image. And now we would like to present this copy.
Thank you.
As a token of gratitude from
Thank
China
you.
To
it
France.
It will be put in the library of the Institute of Indian Studies, the Collège de France. So very soon it will be accessible to the readers.
So thank you. And thank the College. So this is the basic information of this book. So if you are interested, you can search the table of content, including Chinese and English one, on the site of the Peking University. And this is the authorship, as well as more information about the book. So we shift our focus today to Cao, where we give in the table as Kabudan according to the situation in the Tang period. Yoshida's map, based on the Xin Tang Shu, the new book of Tang, also for the situation in the Tang period, Cao is Kabudan. But as we shall see, the geographical concept of Cao is not fixed. In the Sui period, it basically designated Ishtihan. And here I run very quickly the basic bibliography that we will treat today. So the reference in history, and reference in archaeology, and reference in philology and linguistics. As analyzed by Yu Taishan and Li Jingshou, the Tongdian text on the Cao is almost just a copy from the Sui Shu. So the text actually depict the situation in the Sui period. This is clearly explained by the Xin Tang Shu, and it has been translated by Shavan. So I quoted, "Le Cao occidental est le pays de Cao de l'époque de Sui. Vers le sud, il touche à Shi, Kesh, et à Bolan. Le siège du gouvernement est la ville de Shediliang, and as Shavan indicated in a footnote, the correct characters should be what he spelled as Shedihen. And in fact, a more proper spelling is Shedihen. It without any doubt denotes Ishtihan. Au nord-est, dans la ville de Yehudi, il y a le sacrifice au dieu de Xi. And it's in plural, and we shall explain for his usage of plurality. Les gens de pays le rendent un culte. Il y a un assortiment d'ustensiles au nord sur le gauche de quel est une inscription qui dit que c'est un présent fait par le Fils du Ciel à l'époque des reines. Before we read the text in the Tongdian, first, please note that the verb shi, translated by Shavan as rendre un culte. This is one of the examples based on which I translate the key passage about the temple in Samarkand as follows, as we already treat in the first week. So I read only in Chinese. 杜环精行纪云,康国有神慈明拔,诸国事者. This is the verb. 本出于此。And I won't explain my reason. Can you see where is the verb that I translated as serve, while other scholars translate either as affairs or direct affairs, etc. And now it's again we return to the map on the Sogdiana.
Voilà la situation telle qu'elle est à l'époque Tang. Hein. Il y a trois Tsao, Tsao occidental qui a récupéré l'ancienne capitale de général de Tsao qui est Ichtiran ici, Tsao central qui est Budan Jaket et Tsao oriental qui correspond au pays donc de l'Oustrochana. Alors, à l'époque Tang, la capitale de Tsao est indiquée non pas comme Ichtiran, mais comme Kebudan Jaket, un site donc on va voir maintenant qui est identifié. Alors, la question de savoir pourquoi le nom de Tsao a glissé de cette manière et pourquoi on s'est retrouvé avec trois Tsao n'est pas élucidée. Bon, ici, évidemment, il y a la proximité géographique, ça appartenait au même pays, et puis le centre de gravité s'est déplacé. En ce qui concerne le Tsao oriental, l'Oustrochana, on ne sait pas, il n'y a pas d'indice clair que ça a été colonisé particulièrement depuis le sud, l'Oustrochana, auquel on avait consacré un colloque au Collège de France il y a quelques années, semble avoir sa propre culture depuis l'Antiquité. Now Ichtiran, slide on Ichtiran.
Sure.
Alors, Ichtiran est un site archéologique pas très exploré, mais enfin vraiment intéressant parce que il est l'un des sites qui ont fourni des ossuaires de cette remarquable série qu'on appelle les ossuaires de Bianaiman ou les ossuaires de Miankal, qu'on trouve un peu partout dans Sogdiana centrale. Et qui représente des divinités zoroastriennes tout à fait orthodoxes, mainstream. Je dis mainstream en anglais, ce qui est contraste avec ce qu'on va lire après sur le culte du dieu Tarsich. Plan affiché. Voilà le site, classique site sogdien avec citadelle, faubourg. Il est le site actuel. Le site d'Ichtiran, Ichtiran Tepe, est un petit peu au sud-est de la ville actuelle d'Ichtiran qui existe toujours.
Okay.
Alors, l'exploration archéologique de cette zone est rendue compliquée maintenant parce que cette zone a été intensivement, à l'époque soviétique, valorisée par l'irrigation. Beaucoup de sites ont disparu. Malgré tout, il reste un potentiel dans les sites les plus importants.
Donc, par exemple, le Chiliac.
Oui, alors, voilà, on a le site très intéressant de Chiliac, qui semble avoir été à la limite entre Tsao occidental et Tsao central. Ce serait plutôt Tsao central. Ce site est fameux parce qu'il a fourni un petit trésor, mais d'objets remarquables, des plats d'argent, dont l'un est sassanide, deux autres sont locaux, et celui-ci est un plat heftalite. L'un des plats porte une inscription en sogdien, c'est un trésor qui avait été dissimulé, on ne sait pas vraiment l'origine de ce trésor. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un trésor de temple, et j'ai même envisagé un moment l'idée que le temple du dieu Tarsich, dont on va parler maintenant, aurait pu se trouver là, mais nous nous orientons maintenant vers une situation plus au sud pour ce temple. La question est ouverte. En tout cas, il n'y a eu que des fouilles très limitées sur ce site. Ces sites ont vraiment encore un potentiel archéologique.
C'est un site plein de Chiliac.
Voilà le site de Chiliac qui comporte plusieurs tépés, et c'est ici le lieu de la découverte. Dans une maison assez modeste, hein, c'est pas une maison aristocratique, c'est pas un temple. Il a été trouvé dans cette pièce qui avait été murée au début du 7e siècle pour devenir une cache de trésors et n'a jamais été rouverte. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ce trésor a été caché? Nous ne le savons pas. On peut faire certaines hypothèses, mais ce n'est pas le lieu de s'étendre là-dessus aujourd'hui.
Oui, puis...
Et dans les environs, ACTP...
Oui, c'est ça.
Oui, voilà, il existe d'autres sites dont certains sont soupçonnés peut-être être des sites de temples, mais encore une fois, ça n'a pas été fouillé. Voilà, plus près de Ishtihan, voilà, un ensemble, cet ensemble. Ce sont vraiment les sites sogdiens typiques de cette période, hein, ce qu'on appelle les sites à deux étages, parce qu'il y a une citadelle et une petite ville basse. Alors, parfois c'est latéral, la citadelle, parfois c'est au milieu. Ça montre en tout cas qu'il s'agit de régions qui étaient très densément peuplées, avec une forte présence aristocratique et militaire.
Okay, so in any case, there are several sites which demand for fuller investigation. So, as for the site where the temple of Daxi was built, the Xin Tang Shu said that it was either in the northeast of the whole country or just to the northeast of its capital, although this does not make much difference. Kesh is indeed to the south of Ishtihan, but we are still looking for a good solution of Bolan.
Yeah, Bolan, on ne sait pas. On n'a pas pu identifier.
Yeah, I think there is a note in Solon Stark's edition of Tang Huiyao, but I'm not sure.
Okay.
And now let's return to the Tongdian. Although Sha Wan did not translate its entry, he translated the one in the Sui Shu, almost of the same content. Here I quote, "Le royaume de Cao a sa capitale à quelques li au sud de la rivière Nami, Zarafshan. Il faisait partie autrefois du territoire du Kangju. Comme ce royaume n'avait pas de chef, le roi du royaume de Kang, Samarkand, chargea son fils Wu Jian de le gouverner. La capitale a trois lits de côté. Les soldats d'élite y sont au nombre de plus de 1000. Dans ce royaume, il y a les dieux de Xi. Les divers royaumes qu'on rencontre en partant de la mer d'Occident et en allant vers l'Est les honorent tous et les rendent un culte. Parmi ces dieux, il y a l'homme d'or. Son polo d'or est large de 15 pieds. La hauteur de la statue est proportionnée à ses dimensions. Chaque jour, on leur sacrifie 5 chameaux, 10 chevaux et 100 moutons. Il y a constamment 1000 hommes qui en mangent la chair sans venir à bout. So, the underlined passages are not easy to interpret, and various translations exist. In Sha Wan's opinion, it would mean that the height of the golden man, or a golden statue, is proportional to the size of the polo. And if so, it should mean something in archaeological reality. Now, let's read the Tongdian entry generally before going into details. The state of Cao, in the Sui period, its capital is severally to the south of the Nami River. Formerly, it was in the territory of Kangju. There is no ruler in the state, so the king of the state of Kang charges his son Wu Jian with governing it. Allied soldiers, more than 1,000 men. In this state, there is the deity Dexi. Various states east of the Western Sea all worship it, or him or her. And worship literally means revere and serve, or reverently serve. And as we shall see, here, for the convenience of our discussion, I translate this key passage as close to Chinese grammar and syntax as possible, given that in classical Chinese, linguistical gender and number are generally unmarked. So, the deity has a golden statue, literally gold human, a golden polo of which the diameter is 1 zhang and 5 qi. The higher, maybe statue, and the lower, maybe the polo, are in proportion. or the height of polo is in proportion of its diameter. We don't know, and there can be other interpretations. Then, every month in Suishu every day, 5 camels, 10 horses, and 100 sheep or goats are sacrificed to the deity. Usually there are 1,000, but in Suishu several thousand persons surrounding it, eating those food, but never being able to finish their eating.
Voilà. Alors, bien que ces indications chiffrées soient précises, elles sont quand même difficiles à interpréter. D'abord, il y a une différence entre donc, le Tongtian et les autres et le Suishu. Dans le Tongtian, on ne parle pas de sacrifice chaque jour, mais de sacrifice chaque mois, ce qui semble plus réaliste. En même temps, s'il y a vraiment 1000 personnes chaque jour qui mangent, ça correspondrait en fait, pour les nourrir, il faudrait que le sacrifice ait lieu chaque jour. On ne va pas nourrir 30 000 personnes seulement avec 100 moutons. Donc là, il y a un problème. Alors, ou bien véritablement on a affaire à des holocaustes énormes avec 1000 personnes qui mangent en permanence, ça paraît quand même assez difficile. Ce serait une ponction énorme sur l'économie agricole. Donc, je pense plutôt que les sacrifices ont lieu chaque mois et que les 1000 personnes qui mangent, c'est chaque mois aussi. C'est-à-dire qu'au moment du sacrifice, il y a un grand banquet. Mais c'est difficile d'imaginer 1000 personnes mangeant chaque jour cette énorme quantité dans le temple. Voilà. D'accord. Mais les textes, encore une fois, il y a une contradiction dans la transmission des textes.
Yes, d'accord. And then we continue to the last paragraph. The state is 100 li from the state of Kang to the southeast, 150 li from the state of He, Kushania, to the west, and 6,600 li from the Guangzhou prefecture, and that is to say Dunhuang, to the east. During the Da Ye Ren period, it sent an envoy to pay its tribute. It's your turn.
Donc on voit bien, quand on examine les distances, on voit très bien que l'état de Cao dont il est question ici est à l'est de Kushania et la distance correspond à Ishtihan.
So, now we treat keywords and problems. On the Nami River, as summarized by Yu Taishan and his English translation and commentary on the Suishu, it is generally identified with the Zarafshan. So here I just quote his English commentary. It is generally believed that the Nami is Zarafshan, well, since Marquardt and Chavans, and that Nami is a transcription of the Namid or Namik in Iranian.
Donc le Zarafshan, c'est la grande rivière qui traverse toute la Sogdiane d'est en ouest, hein, qui part des montagnes près du Pamir, qui passe à Penjikent, qui entre ensuite dans la plaine, qui passe à Samarcande, qui passe à Boukhara, et elle se perd dans les sables avant d'atteindre la Moudaria. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que... Donc, quand on parle d'une rivière dans cette région, c'est évidemment le Zarafshan. Alors, parfois, on a un autre nom en chinois. On a uniquement le nom en chinois. C'est la rivière des Sapao. Sapao au sens originel sogdien, c'est-à-dire les caravaniers. Mais ici, donc, Nami, on avait compris depuis longtemps que ça correspond au Pelevi Nami, qui veut dire fameux, célèbre. En l'occurrence, précisément, ce serait la transcription du sogdien Nami. On voit que le nom grec que les Grecs ont donné à la rivière, Polytimetos, le très précieux, devait être une traduction approximative de ce même nom. Alors, depuis le XVIIIe siècle, la rivière s'appelle Zarafshan, ce qui veut dire, ça renvoie au même registre sémantique, c'est celui qui apporte l'or. Ce qu'on peut comprendre de deux manières, il y a des pépites d'or dans le Zerafshan, donc ça peut être une fourniture d'or par orpaillage, ou plus généralement, c'est la richesse de l'irrigation.
And so the next sentence is Guo Wu Zhu, there is no ruler in the state. So Kang Guo Wang Ling Zi Wu Jian Ling Zhi. So the king of Kang charged his son Wu Jian and maybe Okian or even Rohan, according to Yoshida's analysis of the transcription in Manichaean text, but anyway, we are still trying to solve this name, Wu Jian. And we don't have, unfortunately, good candidate until right now. And
alors, il y a un petit commentaire à faire sur le fait que le roi de l'état de Kang, qui est donc Samarcande, à l'époque où renvoie ce texte, c'est-à-dire à l'époque Sui, donc début 7e siècle, le seigneur de Samarcande n'a pas pris le titre de roi, qui est en sogdien Irshid. Le titre local est toujours Afshin, qui désigne un seigneur. Bien, c'est seulement à partir environ de 640 que le roi de Samarcande va s'intituler roi. Mais bon, les textes les chinois ne faisaient pas ces distinctions subtiles, et dans tous les cas, ils emploient le mot chinois Wang.
Okay, so one may also consider Yoshida's table that we already treat in a previous seminar. It's noteworthy that Cao is counted as one among the nine countries dependent from Samarkand. Cao is listed just after Maimuk and Kesh, but the ruling family of Ishtihan was extinct according to the Sui Shu, which most probably depict the situation in the first decade of the 7th century, as collected by Pei Ju. So the disappearance of the local ruling family makes the etymology of Cao even more enigmatic. At any rate, it is possible that in the eyes of Chinese in the 7th century, Cao was no more an independent country, but submitted to Samarkand.
Alors, il est intéressant de remarquer qu'au début du 7e siècle, Ishtihan, capitale à l'époque du Cao, est administrée depuis Samarcande par le fils du roi de Samarcande. Parce que c'est une situation qu'on va retrouver après la conquête arabe, un siècle et demi, plus d'un siècle plus tard. Alors ça pourrait être la même situation continuée ou bien qui est réapparue. En effet, au moment de la prise de Samarcande par les Arabes en 712, le roi Ruriek de Samarcande s'est réfugié, s'est exilé à Ishtihan, Samarcande étant occupée par l'armée arabe. Donc Ishtihan faisait partie de ses possessions. Et en 730, il a demandé à l'empereur de Chine de reconnaître son héritier, Tulrar, qui va lui succéder sur le trône de Samarcande, comme roi d'Ishtihan. Donc, il semblerait qu'il y a une situation établie depuis plus d'un siècle, selon laquelle Ishtihan est devenu une vice-royauté du royaume de Samarcande. Alors, autre renseignement intéressant, c'est l'histoire des mille soldats d'élite. Alors finalement, oui, je crois qu'il semblerait que c'est une traduction tout à fait vraiment correcte pour l'expression chinoise. On a traduit aussi, je ne sais pas, braves soldats, etc. Mais en l'occurrence, yes. c'est les soldats d'élite.
Yes, literally victorious soldiers.
Voilà.
Good soldiers.
Donc, ce serait, on pourrait dire, voire là... La garde personnelle du souverain ou les soldats d'élite, peut-être ce qui plus tard va être connu sous le nom de Chakar, qui sont aussi des soldats d'élite. Enfin, il y en a mille. Bien. Et ce même chiffre de mille on va le voir tout à l'heure, réapparaît à propos d'autres principautés. Alors, ça me rappelle les hypothèses très, très hasardées, hein, que j'avais émises à propos du nom de la Sogdiane donné dans un passage du Tongtian, nom qui pourrait être restitué en Tokuzming, ce qui en turc veut dire les 9000. Alors, je m'étais demandé si ça n'évoquait pas le fait que les 9 principautés sogdiennes, qui sont donc, qu'on trouve régulièrement, hein, les Chaowu, on sait qu'aujourd'hui que c'est pas un nom de famille, c'est un titre, Chamuk, titre d'origine heftalite probablement, c'est peut-être chacune de ces 9 principautés contribuerait 1000 soldats dans des campagnes menées en commun. Voilà. Et ce qui pourrait peut-être expliquer, du coup, qu'on appelle la Sogdiane, mais la Sogdiane étendue, puisque, en fait, parmi les Chaowu, il y a aussi le Khorezm. On l'appelle les 9000. Ce sont les troupes d'élite sur lesquelles la Confédération, ou peut-être le pouvoir nomade qui la dominait, en l'occurrence l'Empire turc occidental, peut-être aussi les Heftalites, pouvaient compter. Alors, le problème, c'est que ça suppose évidemment un renseignement comme celui-ci n'a pu être transmis que dans un contexte turcophone. Donc, ça nous indique, ça pourrait remonter à la conquête de la Sogdiane à partir de 560. Mais on a des raisons de penser que ce renseignement transmis par le Tongtian remonte à des sources antérieures, d'époque Wei. Alors, donc, Étienne de la Vessière, à qui nous avons soumis la question, pense que, comme de toute façon, on ne sait pas, la situation linguistique de l'Empire Heftalite au 5e siècle n'est pas claire. On ne peut pas exclure qu'il y ait eu une terminologie militaire d'origine turque. Donc voilà, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Et là, on va voir que, d'autres principautés, Kesh a également 1000 hommes, He a également 1000 hommes, et donc ça a l'air d'être ça n'a pas l'air d'être le chiffre, c'est un chiffre assez faible pour la population mobilisable. Ça se comprendrait mieux s'il s'agit de troupes d'élite qui contribuent à des campagnes militaires communes.
Yeah.
Ensuite, oui, alors.
Oui, so this number of the soldiers of Mamouk, Kesh, and Kushania are respectively the number given in the Sui Shu. So, as for the deity, Franz thinks that the Western Sea means most probably Caspian Sea and Aral Sea in this passage. The two were not distinguished from each other in this context. As to the expression revere and serve or worship, given that reference is made only once and for one temple of Dexi, Fons notes that this passage means very probably like people coming from the west bring offering or pay homage to the temple of Dexi.
So, oui, alors là je vais être amené à revenir là-dessus parce que avec la localisation que nous proposons maintenant pour le temple de Tarsich, ça ferait sens. Étant donné que ce temple se situerait sur la route principale qui venait de l'ouest. Mais je vais commenter ça à nouveau.
Oui. So, I would say, since syntactically, Zhi is a pronoun here, without mark of gender nor number, there is indeed space for interpretation. And accordingly, let us provide a working hypothesis. The translation may be given as, in this state, there is perhaps the temple of the deity Dexi. Various deities of the Western Sea all worship it. By assuming that one of the original sources of Tongdian and the Sui Shu is also adopted by the Xintang Shu. In other words, the issue is how many temples of this deity exist in the past in the Sogdian proper. And our working hypothesis is that there was only one temple in Sogdian proper of this deity, which was the center of this cult. Before treating this issue, let's first read Yu Taishan's commentary on this deity, because it expresses a popular view in China, among Chinese scholars. So, De Xi Shen, De Xi Goddess. De Xi should be the goddess in charge of the stars and rain in Zoroastrianism. De Xi is the transcription of the Taxic in Sogdian, and his reference referred to Henning, a 1965 a Sogdian god.
Oui, alors voilà, là, nous allons, Chao Zhong va commenter en détail la manière dont la question est traitée dans l'historiographie chinoise actuelle. Bien, je dirais qu'il y a eu, une accumulation d'erreurs successives par une série de confusions qui ont été en fait reproduites. Et on voit très bien ici le résultat de ce commentaire de Yu Taishan résulte d'une confusion dont il n'est pas responsable, qui a été introduite avant lui, entre une confusion fondée sur l'analogie des noms, entre Tarsich, cette divinité Tarsich, dont nous savons maintenant qu'elle est féminine, on va revenir là-dessus, et le nom du dieu des étoiles et de la pluie, Tishtria. Yu Taishan, qui est au courant que Tarsich est féminin, en fait de Tishtria une déesse. En fait, ça n'a jamais été une déesse, c'est le dieu c'est effectivement le dieu de l'étoile Sirius, de la pluie, et il y a une analogie superficielle entre le nom Tishtria et Tarsich, et c'est d'autant plus invraisemblable de rapprocher les deux noms qu'en fait, en Sogdien, Tishtria ne s'appelait pas Tishtria. On utilisait une forme abrégée qui était Tish. Voilà. Donc, voilà une image bien identifiée du dieu Tishtria, Tish Sogdien, sur un ossuaire Sogdien. C'est un dieu mâle, en armure, parce qu'il est considéré, il est le dieu de l'étoile Sirius, qui est considéré comme l'étoile qui dirige les armées des étoiles du côté de l'Est, n'est-ce pas? Et il est, l'un de ses symboles est une flèche qui représente le scintillement de l'étoile Sirius. Là-dessus, le texte de l'Avesta est très détaillé. Il tient le symbole de la forte, ou plutôt il protège la chasse. Donc il tient le symbole du faucon. Peut-être ici, comme il a des oreilles de cheval dans son casque, parce que chaque année, il se métamorphose en cheval. On va voir ça tout à l'heure. Et il tient un bouclier rond, qui pourrait être l'indication de son assimilation astrologique ultérieure à la planète Mercure. Donc on voit qu'il ne s'agit absolument pas d'une divinité féminine. Et ici, il pourrait, je dis bien il pourrait, réapparaître, mais de manière symbolique, sur un des tombeaux donc des Sogdiens de Chine, le tombeau Miho, où on voit un sacrifice offert. Alors, c'est peut-être le sacrifice d'un cheval, ou c'est peut-être une offrande offerte à un cheval, c'est pas clair ici. Ce sacrifice du cheval pourrait faire penser au culte du fleuve Oxus, parce que nous avons une légende locale qui est transmise par un texte chinois, selon lequel le fleuve, près du temple de ce fleuve, un cheval sort de l'eau chaque année. Et ça pourrait, selon une hypothèse que j'ai émise, et également Boris Marchat l'avait émise aussi, indiquer en fait une assimilation entre le dieu de l'Oxus, Amudarya, et Tishtria, qui chaque année se transforme aussi en cheval. Voilà. Donc ici, on aurait effectivement un symbole qui pourrait fonctionner à la fois pour le dieu Oxus et pour Tishtria, mais certainement pas pour Tarsich.
As for the goddess Tarsich, as Franz told me, that there is almost no mention.
No mention at all.
Yeah, no mention of her. Yeah, in Zoroastrian literature, and except for the Chinese text, his camp can be only detected from a few Sogdian personal names, until Li's silver vessels was found from Shixing in today's Kaohsiung County, Xinjiang province of China. Here, a photo from our friend Bibo, and we will treat it, but first let us review previous series of Dexi, according to the time order. As Shavan wrote, it was Tomaszek who first equated Dexi with Tistria, while Hirt, the sinologist that we already mentioned a few weeks before, identified Dexi with Tus, plural Tester, who are commonly worshipped by Turkish peoples. Shavan gave no judgment, yet he translated Dexi in plural, so that means he did not reject Hirt's view. It was Shiratori who combined all the terms together. A main reason is that Tester and Tester sound similar to him. Henning did not touch Shiratori's theory, yet he detected the name of God Taksich in Sogdian texts. Wakeman could not decide, so he simply gave a compromising translation. So now we read Henning's original note in 1965 on Taksich. In addition, there were some gods that are not readily identifiable, such as Rovakshi or Rovaksh, blah blah blah, and Taksich, known through a Chinese report Taksit, namely Dexi, and a personal name in the ancient letters. And for the note 70, we shall treat maybe later or next week. Then I read the note 71, Taksich Bande, the slave of Taksich in ancient letter 2, right? So the author of the letter, Nanai Bande, is speaking of his own son. One could draw the inference that Nanai and Taksich were associates. But Taksich, a rapacious god whose statue requires daily sacrifice of 5 camels, 10 horses and 100 sheep, was not Adonis.
Alors ici, que veut dire Henning en mentionnant Adonis? C'est que Adonis est la version, l'interprétation grec du jeune amant de la déesse Nana, qui correspond en Mésopotamie à Ishtar, Tammuz. Ce jeune amant meurt, est tué, elle le pleure, et en fait, il ressuscite chaque année, il représente l'esprit de la végétation qui meurt et qui renaît. Et Henning, qui s'adressait à un public qui connaissait très bien les textes classiques, utilise le nom Adonis au lieu du nom Tammuz. L'idée que défend Henning ici, c'est que Taksich, donc un dieu rapace qui demande une énorme quantité de sacrifices, ne serait pas un très bon candidat pour un jeune dieu qui fait l'objet de lamentations. Mais bon, on n'est pas obligé non plus de le suivre, et pour notre part, nous pensons que Taksich est en fait une version féminine du mythe d'Adonis et Tammuz, mais on va revenir là-dessus.
Yes, so I continue the reading. There is no reason, other than partial surface resemblance, for connecting the Sogdian god with the Turkish tribal name Toksit, see Minorski's Alalam Hudut. His famed sanctuary may be sought at Taksich in the district of Bab Abgar in Bartos, Turkestan, and some 20 miles to the northwest of Samarkand. It may have been regarded as part of nearby Ishtihan, that means Western Cao.
Ça, c'est très important, parce que c'est Henning qui a attiré le premier l'attention là-dessus. On a un nom de lieu, un seul, qui, dans la région de Samarkand, est pas loin d'Ishtihan, qui au Moyen-Âge s'appelait Taksich. Et un certain nombre, même un nombre assez important, de noms de villes, de villages en Sogdiane remonte à d'anciens temples et ont gardé le nom de la divinité. Donc là, je commente là-dessus. Voilà Samarcande. Alors, on se situerait le village de Tarsitch. On va en parler tout à l'heure, mais d'après les indications qu'on trouve de chez les auteurs arabes, c'est à peu près à 30 km de Samarcande. C'est pour ça que Henning parle de 20 miles. Ça se situerait en fait à peu près ici, dans une. Voilà. On va ici, à un endroit qui correspond à une ville qui aujourd'hui s'appelle Djouma. Donc je vais en parler. On est en fait. Henning parle du nord-ouest de. Oui, de. Il dit que c'est au nord-ouest de Samarcande. Oui, c'est plutôt à l'ouest, mais enfin, voilà. Bon, c'est effectivement, vous voyez, pas loin d'Ichtiran. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'à l'époque du Swayishu, le royaume du Tsao s'étendait sur la rive gauche du Zirafshan, sur cette zone, hein, et qui n'aurait pas relevé donc du royaume de Samarcande. C'est tout à fait défendable comme idée. Alors, que cherche et la recherche que les idées que je vous présente ici, c'est vraiment une recherche nouvelle que nous avons faite avec Chao Zhang, puisque avant, ben disons, on avait tendance à chercher le temple de Tarsitch en prenant littéralement l'indication de direction donnée par le Xing Tangshu, nord-est d'Ichtiran. Donc on cherchait plutôt par là sur les piémonts, mais si on s'en tient à la toponymie médiévale, c'est au sud qu'il faut chercher le temple de Tarsitch, et donc la ville de Yeyudi où il se trouve. Malheureusement, le nom de cette ville ne donne rien en moyen chinois, on n'arrive pas du tout à raccorder ça à quoi que ce soit. Mais donc, l'idée qu'on peut défendre, c'est que si on doit chercher quelque chose à 30 km de Samarcande dans cette direction, on tombe sur une ville aujourd'hui qui s'appelle Djouma, qui est assez importante, et c'est un toponyme relativement récent. Et en fait, Djouma, ça veut dire vendredi, et on a plusieurs Djouma hein, en Asie centrale, ça veut dire mosquée du vendredi, ou plus généralement, le bazar du vendredi. Bon, ça va ensemble, parce que s'il y a un bazar du vendredi, il y a aussi une mosquée du vendredi. On remarque, voilà, c'est ici, on remarque, voilà Samarcande, voilà Djouma, et donc Ichtiran serait par là à peu près, bien. On remarque que ces endroits qui s'appellent Djouma correspondent à des lieux de rassemblement, des carrefours, des gros marchés, et ça pourrait tout à fait prolonger une situation ancienne, c'est-à-dire que traditionnellement, eh ben c'était une grande foire, c'est un endroit où on échangeait les produits. Et notamment les produits de l'élevage qui avaient lieu sur les piémonts. C'est typiquement le genre de site où les éleveurs viendraient échanger leurs produits contre des produits de l'agriculture irriguée. Donc je suppose que si c'est pas à Djouma, c'est pas loin. Voilà. Et nous constatons d'après ce plan archéologique que à l'époque qui nous concerne, la zone est très peuplée, n'est-ce pas, très. Il y a ce grand canal, le Dargom, qui alimente Samarcande et qui, dès cette époque, est prolongé jusqu'au Zirafshan. Beaucoup de petits sites partout. Un autre argument pour chercher le temple de Tarsitch ici, c'est qu'on est sur ce qui s'appelait... Tiens, tu peux remontrer le plan général. Voilà. On est sur ce qui était appelé au Moyen-Âge la route royale, c'est-à-dire la route royale entre Boukhara et Samarcande. La route principale passait au sud. C'est d'ailleurs encore le cas de la principale route. Et pas au nord. Il serait donc logique, du coup on comprendrait assez bien ce qui est dit dans le texte chinois, c'est-à-dire que les royaumes de l'Occident, qui sont, les royaumes qui sont à l'Ouest, rendent un culte à la divinité Tarsitch. Ce qui serait à comprendre, les ambassadeurs et les marchands qui voyagent sur cette route vers Samarcande s'arrêtent dans ce grand temple confédéral et font des offrandes. Donc, alors maintenant, évidemment, ce qui manque, c'est la confirmation archéologique. La zone ne semble pas très étudiée, mais bon, je vais consulter mes collègues ouzbeks pour savoir si quelque chose a été fait ou quelque chose est prévu. Alors, cette interprétation que nous présentons présente une difficulté, c'est qu'elle oblige à modifier le texte du Xingtangshou. Puisque le Xingtangshou nous parle du nord-est, et en l'occurrence, on serait au sud-est. Mais voilà, je passe la parole à Chao Zhong.
Yes, I just digest Franz's note a bit. So, as he just talked, we think Henning's notion on the location of Tarsitch based on early Islamic geographers is very intriguing, especially about the district of Abgar. And Franz would say that the place is around today's Juma with regard to the Temple of Dexi, because historically it must be an important place where people meet together. Actually, we discussed a bit on the name Yue Yu Di, and its Middle Chinese should sound like Wawate. And of course, I would say Wawalis, but it must not be the same place, and we don't have any good candidate. So the name Yue Yu Di is still an enigma for us. But anyway, the town Yue Yu Di and its temple of Tarsitch were probably there around the Juma or in the vicinity of it. Because in the early Islamic period, the road on the southern bank of Zarafshan was considered to be the royal road between Bukhara and Samarkand. Therefore, envoys and merchants coming from the west would have visited this confederal temple. And in fact, Batold provide an itinerary, right, from Samarkand to where? Zarman? And then he mentioned a town called Taxi.
Exactly.
Yes.
Which whose location would correspond to present-day Juma.
Yes. So if this is the case, Franz would amend the Chinese text in the Xingtangshu from the northeast to the southeast of Ishtihan. And I do not reject this assumption that the direction states in the Xingtangshu may be wrong. After all, it is known that the Xingtangshu made significant mistakes when it was compiled in the 11th century based on the Jiutangshu and other material. Another possibility is that the Xingtangshu may have lost some passage or details when its editors compiled and rephrased earlier sources. And here we just mark the possible range of Juma on this map. And in fact, Ishtihan is far more north to out of
northwest.
This.
Northwest.
Yeah. So, then again on the lamentation thing we have mentioned in the first week.
Yes. Alors, j'anticipe sur ce qu'on va dire maintenant, mais disons que si on cherche une image de Tarsitch, maintenant que nous savons que c'est une divinité féminine, il y a un bon candidat, c'est ici, cette jeune fille qui repose dans un catafalque et qui fait l'objet de lamentations sur une peinture du 6e siècle dans le temple 2 de Penjikent. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je recherche maintenant ici Tarsitch, c'est une idée également que nous avions émise en commun avec Boris Marchak, c'est que Tarsitch, on en a parlé, dans les noms de personnes, semble associé à deux déesses, une qui est Nana et l'autre qui est Gemat, ce qui est la forme sogdienne de Déméter. Et voilà. Et donc ici, on les voit ensemble. Nana avec ses quatre bras qui se lamente, avec ses cheveux épars, n'est-ce pas ? Alors ici, ce sont des pleureurs professionnels qui se coupent l'oreille, qui se frappent le front, bien. C'est pas du tout zoroastrien comme ambiance cultuelle. C'est vraiment un culte à lamentation d'origine mésopotamienne. Et ici, voilà, donc, et ici, on aurait Déméter, et enfin, telle qu'elle est en fait représentée en Grèce, c'est-à-dire qu'elle a une torche quand elle se lamente sur la perte de sa fille Perséphone qui a été enlevée aux enfers, et elle a un voile sur la tête. Et voilà ce que donc cette hypothèse sur Tarsitch féminine, en fait Marchak n'avait pas fait l'hypothèse sur n'avait pas identifié cette jeune fille à Tarsitch, puisqu'à l'époque nous pensions tous que Tarsitch était masculin. Mais depuis que nous savons que Tarsitch est féminin, voilà ce que j'ai donc écrit dans un article récent. Est-ce que je le lis ? Voilà, je le lis en français. Maintenant que nous savons, grâce à une inscription sur un vase d'argent de Karachar déchiffré par Sims Williams, que Tarsitch, une divinité sogdienne, souvent associée avec Nana dans des noms théophorique, était une divinité féminine, puisque le nom a une fin féminine, avec des prêtresses héréditaires, gardiennes de son trône, etc. Donc une prêtresse héréditaire dont la mère s'appelle Gimat, donc Déméter. On ne peut pas exclure que ce nom Tarsitch, c'est le nom sous lequel les Sogdiens sous le nom desquels les Sogdiens connaissaient cette divinité, cette jeune divinité sur laquelle on se lamente. Donc ce ne serait pas Tammuz qui est masculin, ce serait une combinaison de Perséphone, la fille de Déméter, et de la sœur de Tammuz, Geshtinanna, qui en fait le remplace pendant l'hiver. Donc on aurait effectivement des candidates comme prototype mésopotamien et grec de Tarsitch, qui en sogdien aurait pris le nom Tarsitch et qu'on retrouverait ici.
This is from your paper published last year in Japan.
Au Japon, c'est à propos d'un article que j'ai publié sur les panneaux de bois sculptés de Kafir Kala près de Saint-Marcand. Je crois que c'est pas encore sur mon site Academia, mais ça va bientôt y être, donc ce sera disponible pour tout le monde.
So now still your turn. Let Nicolas think about Gemma.
Voilà. Alors, les dernières lectures que propose Sims Williams, parce qu'il en a proposé d'autres avant, et malheureusement, les anciennes lectures de Sims Williams sont encore la base des raisonnements des savants chinois sur cette question. Mais il a actualisé, après des discussions que nous avons eues ensemble, puisque nous préparons un volume en commun, Early Sogdian Inscriptions and Documents, il s'arrête à cette lecture, cette coupe. Jamak, on va dire ce vase, parce que c'est peut-être plus grand qu'une coupe, est la propriété de la gardienne du trône de Tarsitch, Harar. Alors Harar, c'est une femme. Hein, la fin du mot porte l'indication I, qui est la marque féminine en sogdien. Fille de Gemat, qui est aussi donc une femme. Et c'est la divinité féminine dont le nom remonte à Déméter. Et puis il y a le poids. Alors on peut peut-être déjà commenter l'aspect du vase, qui est rarement publié dans les catalogues chinois, parce qu'évidemment il n'est pas en bon état, il a été restauré. Mm-hmm. Et je le dis tout de suite, je pense qu'il a été mal restauré. On a fait un monstre. Je n'ai jamais vu un vase sogdien ou sassanide comme ça. Je pense qu'en fait, on a combiné deux vases. Mais ça n'affecte pas la lecture de l'inscription.
Right, so now Nicholas considers that the name of the mother of the priestess of the Karashar inscription is a form of Jemas, Demeter, and consequently, as Franz will explain, the onomastic cluster Nana Taksich mentioned by Henning can be expanded to Demeter, and all the three are visible in the Panchkant painting. So maybe
voilà, c'est donc c'est maintenant c'est la solution que je propose maintenant pour cette question et également l'interprétation iconographique de cette peinture. Les deux déesses Nana qui en contexte disons mésopotamien se lamente sur son amant Tammuz, mais aussi sur la sœur de Tammuz, Geshtinana, Déméter qui se lamente sur sa fille Perséphone, enlevée aux enfers, et on aurait donc ici une déesse qui serait la combinaison des deux, n'est-ce pas ? Et c'est elle qui, en sogdien, aurait reçu le nom de Tarsitch. Alors, peut-être le fait qu'on n'a pas voulu choisir entre le nom mésopotamien Geshtinana, babylonien Geshtinana, et le nom grec Perséphone pourrait expliquer qu'on a inventé un autre nom. Et à ce moment-là, on peut rappeler que la seule tentative qui avait été proposée pour donner une étymologie sogdienne au nom Tarsitch, c'est celle de Georges Pinault.
Tremblay. Hmm? Xavier Tremblay.
De Xavier Tremblay, pensait que ça pourrait être une épithète qui veut dire celui ou celle qui revient, celui qui doit revenir, donc le revenant. Ce qui évidemment conviendrait très bien. Alors, Nicolas Sims-Williams...
You go too fast.
I go too fast. Okay.
So, as indicated by Franz, the Middle Chinese of Dexi hardly represents the vocalism of Tistria, but it matched Tuxich very well. So if one comes out Laurier's book on Sogdian personal names, one clearly sees that contrast between the Sogdian spelling of the two divine names. That means Tarsitch and Tish. And you see that in the Sogdian language, the form of Tistria is shortened into one syllable. As early as in 1998, Xavier Tremblay provided an etymology of Tarsitch when it was perceived still as a male god. So you see the summary of this note to the paper of Cornet and Marshak is that le nom de Dieu Sogdien Tarsitch peut s'expliquer étymologiquement comme signifiant le récurrent, celui qui doit revenir. And yeah, Nicolas does not
Nicolas
agree.
Nicolas n'est pas très convaincu. En même temps, il ne rejette pas complètement. Voilà. Je dirais sémantiquement, c'est très séduisant. Parce que à ce moment-là, les Sogdiens avaient hérité de deux déesses d'autres cultures et ils les ont couvertes toutes les deux par une épithète qui correspondrait très bien à la fonction. Peut-être la question va-t-elle encore avancer.
Yeah, but in fact, when Western scholars were still hesitating about on how to interpret Tarsitch gender, Lin Meizhen in 1997, had bravely assumed that this divinity is female, exactly in his publication of the silver vessel from Karashar. It resulted from his free interpretation of Sims Williams' note. As his view is so well known in China, I translate it roughly for you. And here the red small k actually is a typo for a large k. First of all, it is important to note that Lin Meizhen seems to be the only Chinese scholar in his generation who does not confuse Tarsitch with Tistria in China. So I translate. Dr. Sims Williams, based on the sketch of this silver bowl that I transferred to him, identify that line of inscription as Sogdian script. He read, blah, blah, blah. I'm sorry that I cannot read Sogdian. And it means This utensil belongs to the deity Dexi, with three dots, and the god Dharma Sito, he means Dharmasmat, and three dot weight of silver, 30 starters. And he, namely Nicholas Sims Williams, explains that Taksiche is derived from the name of deity Taksich, the deity Dexi. Yet it adopts a feminine ending. So he analyzes that here it is possibly a personal name for a female. As to Dharmasmate, it derived from the name of another Sogdian god Dharmasmat, and it also adopts a feminine ending. The latter is further seen in a Sogdian personal name, Dharmasmavande, slave or servant of the god Dharmasmat, among the Sogdian inscription in the upper Indus Valley. Nevertheless, for the moment, he is unsure about the exact meaning of the god Panene and Horare. And at the end, he gave an end note marking that this is based on Sims Williams' letter to the author, namely Lin Meizhun, 24th May 1991. And here we do not comment Lin's digest of this unpublished note phrase by phrase, because in the forthcoming book by Franz and Nicholas, Nicholas has provided a full, refined, and detailed commentary of this inscription. Now I continue the paragraph in Lin Meizhun's paper. Han Ning mentioned a Sogdian god called Haranach. This name is close to the name Huare, found on this bowl. I wonder if it means one and the same god. All the three names, that is to say Taksiche, Huare, and Dharmasmate, according to his understanding, all the three names of divinities adopt female endings. This phenomenon perhaps demonstrated that they are three goddesses. So many divinities appear in this line of inscription, and this makes one assume that probably this silver bowl was for the religious ritual usage. It seems that from the mention of Henning and An is Lin's own conjecture. His assumption of three goddesses lacks a solid ground, but he is right to guess that Taksich is a goddess. Unfortunately, this point has escaped from Western scholars' attention until Professor Yu Xin of Fudan University in Shanghai published a book in French by referring to Lin Meizhun, namely in this book. So you shall see his digest, actually his translate digest of Lin Meizhun's view in the text underlined in blue by me. So as to the silver well itself, in fact, it's not easy to find a good photo. It is not published in Lin's paper, but on the back cover of this Japanese book that we used many times, there is an image clearly revealing that the bowl is broken almost into two pieces. Bibo told me this piece is so broken that it rarely appears in Chinese catalog, but she kindly provided us the information from a catalog, Chinese catalog in 2011, including size and other details. I wonder if you would like to call it a cup or a vase, because the diameter is...
Oui, donc je répète ce que j'ai dit, à mon avis, la restauration est fausse.
Okay.
Et voilà, on a fabriqué deux objets avec un.
So, and in addition to her photo, you already see. So, let's return to our review of Chinese scholarship. Almost simultaneously in 1998, Cai Hongsheng, a professor in Guangzhou in South China, published his bestseller. Its title may be translated as The Nine Surnames of Hu Peoples and Turkic Cultures in the Tang Period. There he criticized Shiratori. He did not agree to identify Tester with Dexi, because to his knowledge, Tester are gods of fire or hearth, and cannot be equated with Teshtar, god of rain and water. This is an important progress. Moreover, he immediately assorts Ling's opinion to perceive Taxich as a goddess. However, he mixes Williams and Ling's opinion, and in addition, Cai confused Taxich with Tishtria to the extent that he states that Tishtria is a goddess. Here is my rough translation of a key passage in his book. Henning evidently indicated that the Taxich in Sogdiana proper is namely the deity De Xi in Tang literature. This deity is very probably the deity of rain, water, and star in Zoroastrianism. Recently, a silver bowl was unearthed from Shixing on the ring of which Sogdian script is inscribed. After Sings William's decipherment, it contains a sentence, "This utensil belongs to the deity De Xi," and it is indicated that the deity's name contains a female ending, which proves that the deity is female. The cult of goddesses was popular in Sogdian city-states, and here one more piece of evidence can be provided. Cai's view is adopted widely. I just select a few representative ones derived from it. For example, Rong Xinjiang's passage in his paper and then collected in a collection of essay in 2014, that the rain god is also called the water god. It is namely the De Xi god in Chinese sources. And moreover, the Xu Xuyas made more development on Cai Hongsheng's point. And also, one more phrase in Zhang Boqing's bestseller on the Zoroastrian in China, that Tishtar is namely De Xi, who was worshipped with wine, grape wine, in Central Asia. Our intention is definitely not to pick on these statements. We hope that through a close reading of Chinese papers, we can find more innovative ideas among Chinese scholars and communicate with them. And in the meantime, we can realize some blind point among Western papers. Accordingly, French readers will see such a confusion in Yuxin's book with regard to this panel. Right? You see the caption of figure, figure 3.
Voilà. Voilà, c'est là où ça va pas, c'est que il. Voilà, c'est probablement le symbole de Tishtria, mais Yuxin continue à répéter la confusion entre Tishtria et Tarsich.
Yes, this caption.
Erreur donc à laquelle le seul qui a échappé est Lin Meisun.
I think so, right. So actually, this description on the figure 3, this panel in Miho, is actually based on the view of Rong Xinjiang. And in fact, Franz treat this panel again very recently. That means in the Collège Annuaire, 2017
voilà,
à 2018.
Le cheval, c'est l'annuaire du collège de mes cours en 2017-2018, quand j'avais donc consacré mon cours au Sogdien en Chine et notamment à l'art funéraire hein, et les tombeaux sogdiens. J'écrivais donc à propos de ce panneau du tombeau Miho, le cheval sans cavalier sous le parasol, thème déjà présent, y compris dans les tombeaux purement chinois, parce que là aussi, c'est un thème qui... L'image du cheval sans cavalier existe dans les tombeaux chinois, elle est d'origine bouddhique, mais dans ces tombeaux sogdiens, elle est réinterprétée. Alors, il est ici adoré et surmonte des poissons. Eh oui, voilà, détail important, c'est évidemment lié à un fleuve. Ce pourrait être le cheval du dieu Tishtria, lui-même associé à l'Oxus. Je n'insiste pas, on a des indices d'une association entre Tishtria et l'Oxus. Peut-être en rappel de voyage où le défunt aurait franchi ce fleuve. Et donc, c'est reproduit, le panneau est reproduit dans le livre de Yuxin, mais avec, à nouveau, l'erreur récurrente qui confond donc Tarsich et Tishtria.
Right.
Alors là, je vois, voilà. Bon, il y a quand même un problème. Il y a un gros problème, c'est que si vraiment le temple de Tarsitch avait cette importance et un rayonnement dans les pays jusque à la mer occidentale. Bon, là, on peut penser peut-être aussi à une certaine exagération des sources chinoises. C'est une façon de dire loin à l'ouest, à mon avis. Ça ne veut pas forcément dire que au Khorezm au Khorasan, on vénérait Tarsitch. Ça indique que des voyageurs qui viennent loin de l'ouest viennent rendre leur respect à ce temple. Alors, le problème, c'est que on n'a pas de mention donc de ce dieu dans la littérature sogdienne du tout. On ne le trouve que dans les noms de personnes, et que par ailleurs, on a une seule image qu'on peut supposer en rapport avec lui. C'est celle que j'ai montrée à Penjiken. Donc là, il y a quand même un problème. Les temples de Tarsitch ne devaient pas être nombreux. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'en Sogdiane, il y en a un seul. C'est celui qui est mentionné par les sources chinoises et dont le nom survit aujourd'hui, a survécu au Moyen-Âge dans le village Tarsitch. Alors, on sait maintenant, grâce à l'inscription de Karachar, qui avait au moins un autre temple de Tarsitch. C'est à Karachar, mais très loin, très loin. On peut même peut-être faire l'hypothèse que les Sogdiens de Karachar venaient originellement soit du pays de Kang, soit du pays de Tsao. Bien. La quasi-absence des images de Tarsitch dans le panthéon illustré sogdien est problématique. Alors, je supposerais peut-être qu'il y avait une sorte de tabou. Comme c'est une déesse qui est visiblement liée au monde souterrain, à la mort, il se pourrait peut-être qu'elle n'ait pas eu une imagerie très, très répandue, très populaire. Bon, on sait qu'il y avait une statue dans son temple. Il n'est pas non plus dit que cette statue l'a représentée elle. Ça pourrait être une statue. Les Chinois auraient pu voir une statue de Nana ou de Gemat. C'est pas forcément une statue qui représente. Il n'est pas dit véritablement, très précisément, que c'est Tarsitch qui est l'objet de la statue. Bon, mais même c'est tout à fait imaginable. Mais en tout cas, on ne le retrouve pas ailleurs. Peut-être y avait-il un tabou.
Yeah, so actually we admit the theoretical difficulty that if Dersi was a deity widely worshipped as far as to the Caspian Sea and Aral Sea, why we have so little textual evidence in Zoroastrian literature, I mean. And in this sense, Huang would assume that there might be only one temple of her in the Samarkand region, as I already indicated. And furthermore, another one is attested in a faraway Karachar in China. And also, Huang would also make a suggestion, I agree, that Dersi as a goddess of reckoning or a goddess of death or underworld was perhaps a kind of taboo to be avoided in Zoroastrian literature. In fact, Yu Xing, just after quoting Ling Meitun, provide a French translation on the state of Cao in the Sui Shu. Here I just read the key passage in yellow. On y vénère la déesse Dersi Tarsitch, comme dans tous les pays situés à l'est de la mer de l'ouest. Il existe des statuettes au nord de cette déesse et des poids au nord, haut d'un pied et 5 pouces, et tous aussi larges. As Professor Yu Xing kindly wrote back to us a few weeks ago, there is a translation mistake here. The size is of course Caspian as given by Chavannes. Except for this and the respective wording of statuette, his translation is workable. So let's analyze the original passage, which is ambiguous. I think there are at least two alternative translations, but at any rate, 1丈 and 5尺 is around 4 meters. So the golden polo must be huge. The value is variable, but given that an essential definition of 尺 is the length of ulna, this bone, so it won't change too much. In fact, our translation is close to Shavan's. On the other hand, Wakeman is strange. He took kuo, literally wide and width, and which I translate as diameter, as a part of foreign terms polo kuo, by conceiving it the name of statue. But polo definitely means a vessel. In my opinion, polo most probably transcribed an Indian loanword in an Iranian and or Central Asian language. It ultimately came from Sanskrit patra, which was typically transcribed in classical Chinese as bo, arms bowl in Buddhist text. Polo is probably another transcription in non-Buddhist context. Then, or next Friday, I shall explain how I made this deduction. And in fact, after a long discussion together with Nicholas Sinswedians, Anka Dan, Samha Azanush, and Ogihara Hirotoshi, now our concept on the relation among Chinese polo, Iranian paigal, and Greek piale are like this diagram. We shall return to this slide a bit later or next week, and I think...
Ce qu'on voit, c'est que ces termes qui parfois ont été considérés comme empruntés l'un à l'autre forment en fait trois familles complètement distinctes. Hein. On a donc dans l'hypothèse maintenant que nous retenons, polo vient ultimement de sanskrit patra, par le gandhari, bien. Par ailleurs, il y a le mot bien attesté en sogdien, paigol, qui est inscrit sur des vases, on va en parler la prochaine fois, mais qui a une autre étymologie. Et enfin, on avait pensé que paigol venait, et aussi polo d'ailleurs, pouvait refléter le grec phialé, mais maintenant ces deux hypothèses doivent être abandonnées parce qu'on sait que phialé existe en mycénien. Donc ça n'est pas possible que le mot ait été emprunté par le grec à l'iranien, et l'emprunt en sens inverse pour des raisons phonétiques n'est pas possible non plus.
Yes. So, again, your idea on...
Ah, oui. Alors, on verra la prochaine fois que le terme paigol bien attesté est toujours associé à une petite coupe ronde sans pied. Et on a un autre terme en iranien qui, à mon avis, serait plutôt ce que les Chinois auraient traduit par polo, qui est jarmag, qui désigne des vases généralement à pied et de tailles variées, mais qui peuvent être très grands. Alors voilà, typiquement, quelque chose qui a pu ressembler au polo du temple de Tarsitch. C'est un vase en bronze qui est dans la mosquée de Herat. Il fait 1,50 m de large. Alors ça fait pas, c'est pas 4 mètres, mais enfin c'est déjà monumental. Ce vase servait contenait ce qu'on appelle un shorbat, qui est donc une espèce de sirop, une boisson sucrée, parce qu'évidemment en contexte islamique ça ne pouvait pas contenir du vin. On peut imaginer qu'en contexte pré-islamique ça aurait pu contenir du vin, mais en l'occurrence ça contenait du shorbat, et qui était consommé par les pèlerins. Voilà. Et je pense qu'on se rapproche, en fait, avec cette image, du polo décrit dans le temple de Tarsitch. Alors, il y a la question du métal. On nous dit, le texte chinois nous dit que la statue est en or et que le polo est en or. Bien, 4 mètres de haut, ça fait quand même beaucoup d'or. Pour la statue, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que c'était une statue en bois avec des plaques en or. Et ça, c'est attesté, on sait que ça existait en sogdiane. Archéologiquement, on les a pas retrouvées parce qu'évidemment, elles ont été, tout ça a été fondu. Mais on a les descriptions. Quant au polo, le grand vase, évidemment, on peut difficilement imaginer qu'il était en bois recouvert de plaques d'or, mais à ce moment-là, on pourrait penser à un métal qui rappelle l'or. Et on pensera évidemment au bronze clair, en anglais brass, le bronze qui a un fort contenant de cuivre. Voilà comment on peut imaginer les choses. Et il se trouve que... Next slide. Oui, voilà. Il se trouve qu'on a... j'ai recherché un peu les contextes, avec l'aide de Samra Zarnouche, les contextes d'utilisation du mot persan jam, yamak en sogdien. Et c'est le nom qui désigne le vase de Karachar. Donc là, on a un point de contact possible entre le polo du dieu Tarsich et ce mot sogdien, puisque c'est le nom qui désigne ce vase. Alors, ça peut être petit, mais ça peut être aussi très grand. Et on trouve dans un texte zoroastrien fameux ce passage: chaque jour, il donne aux pauvres un jamag en fer de la hauteur d'un cheval, plein de pain, de lait et d'autres nourritures. Et ça rappelle exactement ce qui est décrit dans le temple de Tarsich, avec ces 1000 personnes qui, chaque jour, à mon avis plutôt chaque mois, n'arrêtent pas de manger. Alors, on leur sert la viande des animaux sacrifiés, et également une boisson réconfortante. La description qui est faite dans ce texte de cette espèce de soupe avec du pain, du lait, etc., ça correspond exactement des descriptions qu'on a dans des récits de voyageurs. C'était une forme très très répandue de nourriture populaire en Asie centrale. Et donc, un jamag en fer, de la hauteur d'un cheval, ça paraît absolument énorme. Enfin, il faut savoir que tout de même, à l'époque sassanide, le cheval ne fait pas plus d'1,50 m au garrot. Donc, la hauteur d'un cheval, c'est ça. Voilà. Alors, imaginons quelque chose de plus grand, mais on arriverait à un usage qui rappellerait tout à fait cela. Et moi, j'appelle cela les restaurants du cœur. L'utilisation dans le temple serait en fait une sorte de soupe populaire. C'était une vocation des temples de nourrir les pauvres, on pourrait parfaitement du coup imaginer la présence d'un objet de ce type. Et je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui.
Yes, we leave many questions and we will treat it next week.
Next week.